Allez-y.
Non, une seconde. Alors, 3, 4.
On ne parle pas, la bouche pleine, avec Alain Kruger.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à table avec, excusez du peu, l'homme qui a inventé l'Alsace.
L'homme qui aurait rêvé d'inventer l'Alsace.
Nous sommes avec un Lorrain, avec Gilles Pudlowski, qui vient de publier L'Alsace et les écrivains, qui avait publié le dictionnaire amoureux de l'Alsace chez Plon, et qui a eu l'hommage d'un très grand écrivain français, Bernard Franck, qui disait qu'il souhaitait faire votre éloge funèbre, parce que... Il aurait été le plus adroit, le plus prolifique des voyageurs gourmands de nos provinces. Il a pratiquement redécouvert et même inventé l'Alsace. C'est quand même beaucoup d'honneur que vous fait Bernard Franck.
Et oui, il y avait un peu d'humour de la part de Bernard, qui était un peu mon oncle, quelque part, mon oncle spirituel, c'est bien de le dire, qui partageait comme moi l'amour de la littérature et l'amour de la bonne chère et l'amour des bons vins. Et on avait fait maintes fois bombance dans de très bonnes tables. Et il disait que nous assurions, lui et moi, finalement, la présence française aux tables valeureuses de Marleinheim, d'Illhausern, de Brumath, et j'en passe, et des plus belles, voilà.
Alors Bernard Franck était né à Paris, mais sa grand-mère était d'Haguenau.
Absolument, c'était un Alsacien, un juif alsacien. La famille de Bernard avait choisi en 1870 la France, lorsqu'il a fallu soit rester en Alsace et maintenir l'esprit alsacien en Alsace, soit partir à Paris lorsqu'on refusait la mission prussienne.
Nous avons écouté tout à l'heure une musique de Mascagni qui était le thème de l'ami Fritz, cher...
Erkmann Chatrian. L'ami Fritz, c'est très simple, c'est un personnage formidable, bon vivant, voilà, tout simplement, on va dire le bon vivant type de l'Alsace, hein, qui a à peu près 30-35 ans, qui refuse de se marier.
Parce qu'il suit les conseils de son père, qui était juge de paix.
Voilà, si tu veux être heureux, il faut que tu n'achètes pas d'action industrielle, que tu boives le vin de ta vigne, que tu boives ta bière dans ta chope, que tu fumes ta pipe, que tu joues au euchre, un petit jeu de l'époque, et puis que tu bavardes avec des amis, manges avec eux, partages la truite, et surtout tu ne te maries pas, voilà. Donc, tout l'enjeu du livre, ça va être justement de voir si l'ami Fritz va ou non se marier, et finalement, il va tomber amoureux de sa servante, qui s'appelle Suzelle, et il y aura un pari qui est fait sur une vigne avec le rabbin, et le rabbin va gagner son pari, mais finalement il va l'offrir en dot à la petite Suzelle,
son seul ami, et voilà, le rabbin, oui.
Son meilleur ami, on va dire, parce qu'il a quand même des amis, hein, des amis de cigane,
oui, le seul vraiment, qui dîne tous les soirs, enfin.
Voilà, c'est une école de tolérance un petit peu, ami Fritz, hein, du d'Alsace très mélangé, très mixité avant que ce soit la mode.
Il y a une très très belle scène de dîner de Noël où il y a Fritz, où il y a son ami rabbin et un pauvre violoniste
cigane
qui est poursuivi par la police, oui, et qui est hébergé le soir de Noël.
Enfin, c'est... Chez eux, absolument, parce que c'est ça, c'est la tolérance, c'est l'accueil, où tout le monde est ensemble, on boit, on mange. La scène la plus connue, parce qu'on l'a souvent étudiée à l'école, on s'en a presque oublié, mais ça a été une scène de dictée, c'est « Y a-t-il de plus grand bonheur sur Terre ?» que d'être à table avec quelques amis, de tremper sa cuillère dans une bonne soupe d'écrevisses, de dire « Ah, mes amis, cela durera jusqu'à la fin des temps, comme ça. » Et c'est un éloge du bien-vivre entre amis, de la bonne chair, de la bonne soupe, des bonnes choses. Il y a le kouglof, il y a le foie gras, il y a les écrevisses, les poissons des lacs, les poissons des étangs, c'est-à-dire le sang, la tanche, le brochet. Il y a une scène où il raconte justement qu'on coupe le brochet avec une espèce de truelle comme ça et on voit découliner la gelée du brochet qui arrive. Enfin, on a l'impression de le voir, hein, dans ce livre, parce que je crois que Erkmann Chatrian excelle un petit peu dans ses descriptions merveilleuses et puis aussi dans le l'expression des vins du Rhin, on cite toujours les vins non pas en parlant des cépages, mais plutôt en parlant des crus, des climats, le vin de rivière, le vin du navire, le vin de Benvir, le vin de tous ces noms qui se terminent en vire, qui sont sur la route des vins d'Alsace, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on mange quand on écoute cette musique?
Alors, c'est la bière, hein. Ça évoque les fêtes en Alsace. Alors, il y a les fêtes de la bière, il y a les fêtes du vin. En Alsace, on fait la fête tout le temps, hein. Surtout en juillet et août. On peut dire que chaque week-end, chaque commune pratiquement d'Alsace possède sa fête. Alors, il y a la fête des Grumberfest, la fête de la pomme de terre, des galettes de pomme de terre ou de la pomme de terre dans l'Alsace bossu. Il y a la fête des moissons à Vimeno. La fête du houblon à Gneau, la fête, évidemment, la fête des ménétriers où le vin blanc coule à la fontaine à Ribouvillé, ça c'est le premier dimanche de septembre. Il y a 1000 fêtes en Alsace, hein, et qui sont des occasions, bien entendu, de baffrer, mais avec délicatesse, hein, mais un peu comme dans la Mifritz. Moi, c'est pour ça que moi je cite toujours en disant l'Alsace c'est le pays de la Mifritz. Mais je crois que c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait les Lorrains pour aider les Alsaciens à connaître leur région. Parce que mon thème habituel, j'ai toujours, les Alsaciens sont assis sur un tas d'or et ne se rendent pas compte. Alors, il faut quelqu'un de la région d'à côté. Il y a une phrase.
C'est la même région aujourd'hui.
Bah oui, parce que ça a été remodelé. Enfin, il y a les technocrates de Paris qui ont inventé des régions qui sont un peu bidons, faut bien le dire. On est entre nous là, personne n'écoute. Donc voilà, soyons clairs. Tout ça est un peu bidon. Nous, on a préféré rester à nos régions d'antan. Mais c'est important de dire que, par exemple, si vous êtes de la région d'à côté, vous regardez plus objectivement cette région magnifique, merveilleuse, plantureuse, si riche dont parle Barès,
au moins ça te dit.
Voilà, il reprend une phrase de Goethe, il dit l'Alsace, la merveilleuse Alsace, toujours nouvelle, et toujours ancienne, toujours nouvelle, toujours traditionnelle. Enfin bon, vous comparez l'Alsace avec les autres. Il y a une phrase que je cite de Roger Siffert quelque part, où il disait un voyageur, c'est valable pour la Lorraine, c'est valable aussi pour les autres régions. Il parlait d'un voyageur d'Allemagne arrive en Alsace, et il dit, il se rend compte que la cuisine n'est pas tout à fait. C'est un peu similaire, quoi. C'est un peu cousine, mais elle est présentée différemment. Alors, il disait une chose. En Allemagne, c'est beaucoup, mais c'est pas bon. En France, c'est bon, mais c'est pas beaucoup. Alors qu'en Alsace, c'est bon et c'est beaucoup. Voilà, c'est formidable. L'Alsace, il y a tout. Il y a à la fois... quelqu'un d'autre disait, les Alsaciens, il leur faut la quantité du français, la quantité de l'allemand, pardon, et la qualité du français. Voilà.
Si on va voyager en Alsace avec Barès.
À Mont-Saint-Odile, évidemment, il a un texte magnifique dans un livre qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Au service de l'Allemagne. Alors, ne pas se méprendre surtout sur le sens du titre. Du titre, absolument. Vous savez que Barès était un nationaliste français. Il était le prince de la jeunesse, parce qu'on l'assimile aujourd'hui un peu à l'extrême droite, ce qui est un peu, qui s'est passé à la fin de sa vie, mais surtout à cause de l'affaire Dreyfus, où il a pris le mauvais pli de défendre les anti-Dreyfuseurs. Il n'a pas été très droit là-dessus. Mais sinon, je crois qu'il a défendu surtout l'esprit français dans l'Alsace annexée, la Lorraine annexée. Lui était de Charmes dans les Vosges, près de Nancy. Il est venu plusieurs fois au Mont-Saint-Odile, il le raconte merveilleusement. Il a écrit un livre consacré à Metz qui s'appelle Colette Baudoche. Et après Colette Baudoche, il a écrit donc Au service de l'Allemagne. Alors, Au service de l'Allemagne, c'est l'histoire du soldat Hermann, qui refuse au moment de l'annexion, il refuse de quitter l'Alsace parce qu'il veut maintenir l'esprit français en Alsace. Parce que il se dit, chose suivante, c'est que nous sommes en 1971, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de rester. Qu'est-ce que je vais faire? Si tout le monde part, il n'y aura plus d'Alsaciens de souche ou plus de Français en Alsace. On va laisser ce territoire merveilleux aux Allemands. Donc, il se met au service de l'Allemagne en s'engageant dans l'armée prussienne, enfin, en faisant ses classes, pardon, dans l'armée prussienne. Et alors, il y a une anecdote un peu, un peu triste, hein. Il y a un officier prussien qui perd son enfant et il compatit à sa douleur. Enfin, le soldat allemand le regarde et lui dit « Monsieur, vous êtes vraiment un Français ». C'est un compliment formidable qu'on lui fait, parce que à une époque où l'Alsace était annexée, il n'y avait plus de Français et plus d'Alsaciens, il n'y avait que des Prussiens, mais en fait, le plus compliment. Et alors, dans ce livre qui s'appelle « Au service de l'Allemagne », il y a le texte sur Mont-Saint-Odile avec l'Alsace merveilleuse, les forêts ombrageuses au pied de Bernay, enfin c'est un texte qu'on ne se lasse pas de relire. Quoi.
Je m'enfonce dans ce paysage, je m'oblige à le comprendre, à le sentir, c'est pour mieux posséder mon âme. Ici, je goûte mon plaisir et j'accomplirai mon devoir. C'est ici l'un de mes postes où nul ne peut me suppléer. À travers la grande forêt sombre, un chant vosgien se lève, mêlé d'Alsace et de Lorraine, il renseigne la France sur les chances qu'elle a de durer.
Formidable.
Et cette phrase, donc, la magnifique Alsace, toujours pareille et toujours diverse.
Sur France Culture, avec Alain Crugère, on ne parle pas la bouche pleine.
Barrès, c'était un ventre ?
La cuisine, pour lui, c'était pas quelque chose d'essentiel. Il se nourrissait, quoi. Il était reçu par... lorsqu'il allait en Alsace, il était reçu par le docteur Bucher, dans les familles qui maintenaient l'esprit alsacien, qui avaient créé, en quelque sorte, le fameux musée alsacien de Strasbourg, durant les élections. Et il était reçu, il mangeait alsacien, mais c'était pas quelqu'un qui s'extasiait sur la nourriture, comme par exemple Tony Ungerer, Justifère et d'autres personnages un peu picaresques qui se trouvent dans ce livre.
Alors Tommy Ungerer, justement, le Hansi, il aime la bière, bien entendu.
Il a le vin, la bière, le Kouglof, il représentait des dessins très naïfs qui sont restés l'image traditionnelle d'Alsace, le doit énormément. Enfin, on va dire que ce qu'on connaît de l'Alsace en image, c'est essentiellement l'Alsace d'Hansi, ou l'imagerie d'Hansi. Ceux qui l'ont copié après ont fait du Hansi.
C'est le Bécassine masculin de l'Alsace.
Disons que c'est, oui, enfin, c'est un peu plus que ça, parce que c'est quelqu'un qui s'est battu d'abord. Il a souffert dans son corps, dans son âme. Il a été emprisonné par les Allemands. Il a eu une fameuse histoire du morceau de sucre. Il a fait brûler un morceau de sucre sur une chaise parce que dans une taverne à Saverne, à la Carpe d'Or à Saverne, un lieutenant s'était assis. Il voulait purifier l'air autour de lui. Donc quand le lieutenant prussien est parti, il a fait brûler un morceau de sucre. Alors ça fait un grand scandale et on l'a mis en prison. Et il a fait des dessins terribles, il se moquait des Alsaciens, des Allemands, pardon, des Allemands, pas des Alsaciens, il se moquait des Prussiens qui, eux, se moquaient des Alsaciens, et le fameux colonel de Saverne qui était moqué des Vaques, des voyous alsaciens, il appelait les Alsaciens des voyous, donc c'était 43 ans, je crois, après l'annexion, donc c'était l'Alsace qui était annexée depuis si longtemps aurait pu oublier ses querelles et son identité, mais pas du tout, et Hansi avait encore quelque chose ranimé les vieilles querelles et garder l'esprit français. Comment dire, la gastronomie, pour lui, c'était important. Et lorsque Kurnonski, le prince des gastronomes, vient visiter l'Alsace dans les années 20, il vient à Colmar avec Marcel Rouff, parce que Kurnonski et Marcel Rouff faisaient ce qu'ils appelaient un guide gastronomie des provinces françaises. Donc lorsqu'ils vont à l'Alsace, ils vont voir Hansi, et Hansi les amène dans différents restaurants, comme la Maison des Têtes, un restaurant juif, un restaurant cachère, je crois que c'est à Mulhouse. Il y a plusieurs restaurants où les emmènent Hansi, manger une truite ici, manger une choucroute là. Alors il y a la Maison des Têtes, il doit y avoir Meisterman, enfin il y a les descriptions que font Kurnonski que je cite dans mon cas. Enfin bon, il y a...
Là seulement, on nimbe son front des trois espèces de saucisses sacramentelles, on drape son corps de poitrine de mouton, de culotte de bœuf frais et de bœuf fumé, de cuisses, toire et de viande salée, qui la regresse. Nous gardons donc des choucroutes alsaciennes de brasserie, un souvenir aimable, mais non pas attendri. Que les malins tentent d'en goûter une autour d'une table bourgeoise du pays où règnent encore les grandes traditions. Et ça, c'est la France gastronomique, c'est l'Alsace.
Oui, il dit qu'il mange mieux en fait chez les habitants, parce que c'est vrai que en Alsace très souvent on dit que la choucroute est meilleure à la maison lorsqu'elle est réchauffée, lorsqu'elle est faite par une ménagère avec amour, que lorsqu'elle est faite au restaurant. Et Hansi dit qu'il a été amené avec Marcel Rouff à manger quelque part, je ne sais plus un plat qui l'avait ravi, et il retourne le lendemain et c'est moins bon, voilà.
Hansi, son vrai nom, donc, c'est Jean-Jacques Valls.
Jean-Jacques Valls, absolument.
Donc, il est né
le petit Jean. Hansi, ça veut dire le petit Jean.
Le petit Jean. Il est né à Colmar, juste après.
Après l'annexion.
En 1873, donc juste après l'annexion.
1873, voilà. Absolument. Il est né dans une Allemagne, dans une Alsace annexée. Et bizarrement, il n'a jamais. Alors, il a, contrairement à Spindler, qui s'est accommodé quelque part de l'annexion et qui traitait de Gavroche, de rapin, enfin toutes sortes de termes de Spindler, qui est une valeur importante de l'art en Alsace et de la littérature aussi en Alsace, qui détestait Hansi quelque part, parce que Hansi, pour lui, c'était un peu un personnage un peu caricatural, un peu vulgaire, enfin bref.
Un peu falstaffien.
On va dire ça comme ça, oui. Mais en même temps, je dirais qu'il était opposé aussi dans le l'un était finalement entier avec côté parisien. Il allait, il passait une partie de son temps à Paris. Il était bien reçu par la cité parisienne. Il était copain avec Poulbeau à Montmartre et il faisait des dessins un petit peu dans le même esprit avec les petits personnages, personnages étranges aussi. On se demande vraiment ce qu'il était vraiment.
Gilles Pudlowski, dans votre dictionnaire amoureux de l'Alsace, vous vous souvenez d'un de vos amis qui s'appelle Gilbert Brenner et qui avait lui une relation à l'Alsace particulière.
Bah c'était on va dire l'archétype. Alors lui aussi on va dire avec l'ami Fritz, l'aubergiste tel qu'on imaginait, qui vous est mangé, vous arrivez, vous n'avez pas faim, il vous est mangé une choucroute, un pétanque croûte, des saucisses, tout ce que vous voulez. Et donc moi je l'appelais le Falstaff de la cuisine alsacienne, il était rond, rubicon, rigolo, il faisait boire bière sur vin, vin sur bière, et c'était un personnage formidable. Il avait d'abord une vigne stube qui s'appelait le Pariser Stivele, c'est-à-dire la salle des Parisiens, qui est un peu paradoxal, on appelait ça en alsacien Pariser Stivele, la petite salle des Parisiens, à côté de la synagogue. Donc il disait toujours, en rigolant, que ses amis juifs passaient devant alors qu'ils mangeaient des cochonailles. Bon, c'était un clin d'œil. Et puis après, il s'est retrouvé, il était locataire dans cet endroit. Donc après, il a acheté un endroit dans la petite Venise, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle la Brennerstube, hein, Wienstube Brenner plutôt. Donc la Wienstube de Gilbert de Brenner, et qui est tenue aujourd'hui par un garçon qui s'appelle Agostino Di Foggia, qui est italien d'origine. Et on mange des choses qui auraient plu à Hansi, évidemment, hein, des choses tout à fait classiques alsaciennes, tête de veau, tripe, Riesling, pâté en croûte, torche au marron, hein, le fameux dessert qu'on appelle le Noule Mont Blanc, qu'on appelle là-bas en Alsace torche au marron, et qu'on boit bien sûr les bons vins de la région de Colmar, à savoir ceux de Hügel à Rivière et de Beyer à Eggisheim et de Trimbach et Beauvillet, donc les grands vignerons d'Alsace, c'est un peu leur lip.
Et on écoute la musique d'Hansi. Qu'est-ce que nous écoutons?
Ça, c'est vraiment, on va dire, l'hymne national alsacien en blaguant, quoi. Le Hans im Stankeler, c'est le Jean du trou au moustique. C'est une légende. Il y avait un personnage qui habitait dans un coin qui était infesté de moustiques, et on dit il est jamais content. Alors c'est l'Alsacien classique, la chanson, les paroles de la chanson, c'est le Hans im Schnokeloch, il a tout ce qu'il veut, et ce qu'il n'a, il ne le veut pas, et ce qu'il veut, il ne l'a pas. Le Hans im Schnokeloch, elle est à l'Alsacerville, elle va sa ville à Saint-Enet, elle va sa être à Svillenet. Voilà. Donc, ça va ainsi de suite, et il y a une histoire un peu triste, il y a une version de Roger Cifer, dans laquelle il fait les versions un petit peu grivoises de la chose, voilà, il est jamais content, il est toujours de travers, il fait tout de travers, voilà, et puis il finit par se jeter par la fenêtre, voilà.
Cette musique extrêmement joyeuse, invite forcément à la gourmandise.
Absolument, absolument, musique de fête, on la diffuse, voilà, on la chante. Lorsqu'il y a les groupes folkloriques, bah, vous parlez de ces fameuses fêtes de l'été en Alsace, hein, parce qu'il y a des fêtes en hiver aussi, mais les belles fêtes de l'été, par exemple, le 15 août à Marlenheim, il y a des groupes folkloriques, il y en a toujours un qui vous joue le Hans Schnokeloch, et c'est l'occasion de manger les tartes flambées, manger les choucroutes, de manger le pâté de Vosgien aussi, la tourte Vosgienne, c'est une viande marinée avec un pâté en croûte. Il y a toutes sortes de choses délicieuses qui sont pas des choses trop raffinées, hein. C'est quelque chose, la cuisine alsacienne, elle est plutôt rustique, hein, dans ses contours régionaux. Il y a des maisons comme Berlin ou Serra Marlenheim, etc., qui font une version très très, comment dire, oui, sophistiquée, on va dire, voilà, le Mar Prince Vladimir ou la truffe truffe en croûte, c'est des choses formidables. Voilà, mais il y a la cuisine alsacienne type, c'est plutôt le civet de gibier, le cochenaille, le lard roi quelque part, hein, le lard de tous les côtés, et puis c'est vrai qu'une tarte à l'oignon dans une Wienstube avec un bon verre de pinot blanc, goulayant et frais, c'est formidable, c'est une introduction. Moi j'imagine très bien de voir l'ami Fritz en train de fumer sa pipe, d'avoir son pichet de bière ou son cruchon de pinot blanc, ou les deux, pourquoi pas. Et puis bien sûr le schnapps, on n'a pas parlé du schnapps, mais non, oui, c'est important.
Oui,
le,
bien sûr, très
important. Pas de bon repas en Alsace sans un petit coup de schnapps à la fin, sans une eau de vie évidemment, qui peut être de la quetsch. La quetsch, c'est un peu l'équivalent de la Mirabelle, bien sûr.
Lorraine. Mais,
oui. Voilà, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mon cher Alain, mais c'est vrai que Mirabelle est essentiellement lorraine et la quetsch essentiellement alsacienne. Donc il y a un fruit d'or, une prune jaune côté lorrain et une prune noire côté alsacien. Bon, évidemment, on trouve la Mirabelle très bonne chez je pense, à des dessinateurs comme Vinels, Arribeauvillet, Gieselbrecht, enfin, je peux en citer plusieurs.
Hein. Gilles Pudlowski, voilà. Si l'on pense au petit-neveu du docteur Schweitzer.
Ah ben, on pense à Jean-Paul Sartre, évidemment, qui passait ses étés à Pfaffenhoffen, dans le nord de l'Alsace, et aller faire ses courses, enfin, par l'avenir, dans l'Alsace des écrivains, le petit Jean-Paul a vécu en Alsace. Bon, il n'a pas été trop marqué par son grand-oncle, mais il avait grand-père sévère, protestant. Pfaffenhoffen, c'est une petite ville du pays de Hanau. Le pays de Hanau, c'est une région un peu particulariste. On parle toujours alsacien, beaucoup. Il y avait une communauté juive assez forte, d'ailleurs. C'est assez marrant, parce que les princes de Hanau-Württemberg qui dirigeaient, en quelque sorte, cette région, qui étaient les seigneurs de la région, protégeaient les juifs. Et il y a une synagogue qui est devenue un musée. À Innviller, il y a une synagogue très connue, parce qu'elles sont pas le clocher à bulbe, hein, un dôme bleu comme ça. Sartre, lui, en tout cas, parce qu'ils étaient là-bas, et je crois qu'il a été marqué par son enfance. Il en parle dans les mots.
À Bischwiller.
Alors, Bischwiller, il y a tout simplement, il y a Claude Vigée. Alors là, c'est important, il y a à dire que Claude Vigée était un peu l'écrivain du nord de l'Alsace. Un de ses grands-pères a été négociant en houblon, enfin, du côté de Wissembourg, à Zeebach. Et l'autre a été dans le tissu, était marchand de tissu à Bischwiller. Et il a écrit un livre qui s'appelait Le panier de houblon. Et à Bischwiller, donc, il y avait. Donc c'est toute cette histoire qu'il raconte dans Panier de houblon, qui est une espèce de la recherche du temps perdu juif alsacien, qui est formidable, un livre qu'il faut relire. Et également, Bischwiller, il y a un autre écrivain qui tire son origine de Bischwiller, c'est André Mauroy, à la Herzog de son vrai nom, dont les parents ont choisi de partir dans la France de l'intérieur, ont transporté leur tissage, leur entreprise de tissage à Elbeuf, en Normandie, et puis également Aragon, le souvenir d'Aragon, puisque Aragon a été cantonné durant la... Enfin, il est venu en Alsace en 1819. En tout cas, il a été la libération, il a été médecin, il était médecin dans l'armée Aragon, il était allé à Strasbourg, mais il était cantonné à Michelin, voilà.
Et sur un plan purement gastronomique, Gilles Pudlowski, quel est l'écrivain gastronome pour vous le plus emblématique en dehors de Erckmann,
Chatrian, Erckmann. On va dire que chaque écrivain alsacien quelque part garde un tréfonds de culture gourmande. Il y a un texte de Tobi Ungerer célèbre dans lequel il parle de ses dimanches de table d'hôte qu'il tenait dans sa Weinstube préférée à Strasbourg. Il avait un faux rat en plastique pour effrayer le touriste en disant que c'était une spécialité de la guerre de 30 ans. Voilà, il faisait rire les gens, il faisait peur aux enfants, il faisait rire les gens avec son rat en plastique. Il y a également un écrivain, quelqu'un qui est un chansonnier humoriste, qui a écrit beaucoup de livres sur l'Alsace, c'est Roger Siffert, qui est l'homme du Val-de-Villers, dans l'Alsace d'écrivain. Je cite ce texte dans lequel il dit « Si tu refuses la choucroute, tu refuses l'Alsace. » Donc, en disant en Alsace, cul et culture, ça va ensemble, mais nourriture, enfin bouffe et culture, c'est essentiel. Voilà. Si il veut que... Roger Siffert est un monsieur qui est chansonnier, qui est satiriste, chanteur, homme de comment dire, c'est un peu le Glenmore alsacien, le Stilwell alsacien, mais il a écrit un livre qui s'appelle Alsace-Elsace. Il est originaire du Val-de-Villers. Il dit, il y a un chapitre dans Alsace d'écrivain sur lui, sur le Val-de-Villers, et il dit que sa vallée est la plus belle des vallées, évidemment, et il est pour l'autonomie de l'Alsace par rapport au reste de la France, mais pour l'autonomie de la du Val-de-Villers par rapport à l'Alsace, pour l'autonomie de sa rue par rapport à la rue d'en face. Enfin, c'était un peu un gag, hein, en disant que en Alsace, tout est formidable, mais il y a d'abord la nourriture qui est importante. Et il dit que lorsqu'il fait un spectacle, il est plus triste lorsque un spectateur ne termine pas son assiette de choucroute que lorsqu'il applaudit pas ses chansons. Voilà.
Mais vous, Gilles Pudlowski, vous terminez votre assiette de choucroute?
Ah non, moi je suis garçon raisonnable, je suis pas alsacien, moi je suis lorrain, donc je suis raisonnable.
Merci beaucoup Gilles Pudlowski. Eh bien, je signale donc la sortie de l'Alsace des écrivains et je recommande le dictionnaire amoureux de l'Alsace parce que vous êtes vraiment amoureux de l'Alsace. C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Competissa, la prise de son et de Jehan Richard Dufour et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez écouter cette émission éternellement. Vous pouvez la podcaster pendant un an et dans quelques instants, le journal sur France Culture.